Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1. 14h-15h. La voix est livre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre pour ces hors-séries de l'été. Chaque semaine, nous revisiterons la vie et l'œuvre d'un monstre sacré de la littérature. Et pour inaugurer l'été, je me suis fait plaisir. J'ai choisi mon écrivain favori. Et je ne suis pas le seul, loin s'en faut, à lire et admirer cet écrivain. Vous allez voir, un seul de ses titres et on plonge dans son univers. On lui doit donc Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, 20 ans après, Joseph Balsamo. L'émission ne suffirait pas à citer rien que les titres de son œuvre. Il s'agit donc d'Alexandre Dumas. Pour en parler, j'ai invité le plus grand spécialiste de Dumas en France et donc dans le monde. Il a quasiment voué sa vie à Dumas, il est le gardien de l'œuvre, il fait vivre Dumas. Claude Chop est mon invité. Bonjour Claude Chop.
Bonjour.
Et puis tout à l'heure, nous appellerons Pierre Lemaître, l'auteur d'Au revoir là-haut, qui est un fan absolu d'Alexandre Dumas. Il nous dira comment il l'inspire et il le guide. Mais reprenons au début de l'histoire, si vous voulez bien, Claude Chop. Dumas naît à Villers-Cotterêts en 1802. À quoi ressemble son enfance ?
Son enfance est étrange, sans doute. Disons que quand on va à Villers-Cotterêts, on voit de la forêt. Son enfance a été l'enfance d'un enfant de la forêt, en quelque sorte. Mais bien sûr, ce qui change un peu la chose, c'est que son père est un général.
Ah bah j'allais y venir à la seconde, deuxième question. On est obligé de parler de son père, évidemment.
Absolument. Son père, ne serait-ce que par ses origines, le père d'origine haïtienne, c'est-à-dire mélange d'un obro-normand un peu décadent et d'une esclave noire, esclave de ce obro. Donc nous avons là un syncrétisme déjà étrange. Et donc cela va donner une couleur particulière, si j'ose dire, à l'enfance d'Alexandre.
Il en a conscience de ça ? Parce qu'on oublie souvent de le dire, effectivement, mais Dumas est un quarteron, c'est-à-dire qu'il a un quart de sang noir. Mais est-ce qu'il a conscience ? Est-ce que c'est une question d'identité qu'il se pense comme ça ou pas du tout, en fait ?
Oh, je pense qu'on lui fait comprendre qu'il est différent. Il est nécessairement différent. Et il va construire toute sa vie sur la différence. Dumas est un homme, un enfant d'abord, un homme ensuite différent, qui va trancher par rapport aux autres.
Mais c'est un taiseux, c'est un gamin qui court la forêt, comme son personnage Ange Pitou, qui n'est pas le plus connu de ses personnages, mais comme ça un gamin qui pose des pièges pour les lapins, etc. C'est ce genre-là de gamin ?
C'est ce genre d'enfant combattu, cette tendance combattue par la mère qui veut en faire un homme ordinaire. Or, il est extraordinaire et donc j'ai pu dire quelque part que c'est un enfant qui a appris à lire les traces des animaux avant de savoir lire véritablement. C'est-à-dire sa première littérature, c'est un petit peu cela, c'est savoir reconnaître les animaux de la forêt.
Bon, mais c'est vrai que la figure du père est importante et sera importante toute sa vie. On l'appelait le diable noir, c'était un général sous la Révolution et il est mort quand Dumas était très très jeune. Ça, c'est un traumatisme terrible.
Oui, ça a été un traumatisme affreux, surtout qu'il y avait une admiration contre tous les enfants pour leur père, surtout celui-là.
Surtout qui un héros, comme ça.
Un héros qui était en plus une figure puissante, admirable. Il a vécu cela de façon déchirante, le moment, parce qu'il avait 4 ans quand il est mort. Et il y a l'anecdote bien connue où...
J'adore les anecdotes de
Claude Chop. Dans la maison mortuaire, sa mère monte et voit l'enfant, et l'enfant, lui aussi, court après et monte avec un fusil. Et sa mère lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, mon pauvre enfant, avec ton fusil ?» Et il dit « Je vais tuer Dieu qui a tué papa. » Et peut-être qu'on peut voir là un début de ce qui sera la religion, si j'ose dire, là, avec un A privatif, la religion de Dumas fils.
Et c'est incroyablement dumasien comme scène, d'ailleurs. Ça pourrait être un de ces personnages qui réagit comme ça, avec tout petit peu d'outrance poétique. Oui. Pourquoi on l'appelait le Diable Noir, son père, d'ailleurs ?
Alors, le Diable Noir, c'est le nom que lui donnent les Autrichiens. Bon, à cause, bien sûr,
sa couleur
et à cause de ses exploits multiples devant... il est tout à fait capable, comment dirais-je, de faire front devant un régiment autrichien. Il fauche, si j'ose dire, avec sa grande épée, à droite, à gauche, à droite, et voilà, c'est le diable.
Intellectuellement, à l'école, c'est quel genre d'élève? Il montre déjà des capacités extraordinaires?
Non, c'est pas un élève, c'est vraiment pas un élève. Il est pas doué. Pourtant, sa mère veut lui donner une éducation, donc elle veut même essayer de lui apprendre à jouer du violon, et c'est une catastrophe absolue. La seule chose vraiment qu'il a apprise, c'est avec un vieux maître d'armes un peu bancal, apprendre à manier l'épée. Voilà, c'est à peu près tout.
Comment et quand décide-t-il de partir et pourquoi? De Villers-Cotterêts, je veux dire, pour partir à Paris.
À vrai dire, il va être entraîné par l'amitié et par un peu le fantasme de Paris grande ville, Paris ville cultivée, Paris ville aussi, où on peut réussir. Il y a du Rastignac, comme dans tout provincial du 19e. Il va monter à Paris ou descendre, je ne sais pas ce qu'on peut dire, pour réussir.
Mais pour réussir quoi? Il ne veut pas être écrivain à ce moment-là.
À ce moment-là, il commence à vouloir l'être, puisque son ami de Leuven, qui est c'est le fils, vous savez, de celui, un de ceux qui ont tué au cours d'un bal masqué le roi de Suède. Donc c'est un Suédois, un demi-Suédois, qui a une résidence à Villers-Cotterêts. Et tous les deux, ils vont faire des rêves communs de... Alors donc, ils commencent à écrire les choses à la mode, c'est-à-dire des choses un peu ridicules maintenant, c'est-à-dire « Pour la chasse, je suis un fameux lapin », par exemple. On trouve ça parmi les vers, les petits vers. C'est-à-dire, la mode, c'est au vaudeville. Faire rire. On est dans une période où après la tragédie, l'épopée napoléonienne, on est tombé... dans un monde différent, c'est-à-dire le vieux Louis XVIII, puis le coquet Charles X, mais on tombe, il y a une notion de décadence. Et il va falloir justement lire Dumas comme quelqu'un qui méprise ce qui a suivi l'épopée. Ce qui était grand, c'était l'épopée révolutionnaire. Ensuite, il y a eu l'épopée napoléonienne que détestait Dumas parce que
à cause de son père.
À cause du père qui a été mal considéré par Dumas.
Par Napoléon.
Et donc qui a créé chez Dumas un rejet de ce qu'il pouvait avoir de grand dans Napoléon.
Et en même temps une force, un moteur pour en faire quelque chose. Mais il part à Paris, c'est-à-dire qu'il dit au revoir à sa mère et il part pour de bon, ou alors il part un petit peu et puis il revient. Comment ça se
passe? Il faut dire qu'il a pris le droit chemin, si j'ose dire, celui de notariat.
Voilà.
Il commence d'abord par être un petit clerc de notaire, ce qu'on appelait un saute-ruisseau, c'est-à-dire qu'il était sur un petit cheval, il allait faire signer les minutes des notaires, chez les notaires.
C'est un piston d'ailleurs, cette histoire.
Oui.
C'est un copain de copain qui
voilà, c'est un copain républicain. C'est Maître Menson qui est un bon républicain, et donc il y a une espèce d'accord pour aider. Et d'ailleurs, on peut dire que l'enfant, parce que la mère n'a plus d'argent, l'enfant va réussir en quelque sorte à survivre et même à se placer à Paris grâce aux amis du père.
Restez avec nous, Claude Chop. On quitte Villers-Cotterêts pour de bon et on monte à Paris avec Dumas dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, spécial Alexandre Dumas aujourd'hui avec le grand spécialiste de l'auteur des Trois Mousquetaires, Claude Chop, qui est toujours avec nous, qui dodeline de la tête dès que je dis que c'est le plus grand spécialiste, comme j'ai dit tout à l'heure dans le sommaire. Mais c'est vrai, Claude Chop, vous avez voué votre vie à Alexandre Dumas quand même. C'est vous qui retrouvez des manuscrits oubliés, épuisés, etc. C'est vous qui...
Oui, mais vous connaissez tout. Vous donnez de l'héroïsme à ce qui n'a été qu'un plaisir.
Oui, mais enfin quand même, donc, c'était un sacerdoce parfois.
Oh non, je n'irai pas jusque-là, en fait. Non, non. Et surtout, vivre avec Dumas, c'est toujours
une espèce de plaisir.
C'est un bon commun. On peut trouver qu'il exagère un peu, quelquefois. Mais bon, tout ça dans une espèce de joie et aussi d'une créativité absolue. Donc, c'est délicieux de l'accompagner.
Alors, comment, qu'est-ce qu'il fait à Paris? De quoi se nourrit-il, une fois qu'il est arrivé?
Ben, il reçoit, il se nourrit, il reçoit un salaire parce qu'il entre dans les bureaux du duc d'Orléans, c'est-à-dire là, si vous connaissez la Comédie française, c'est dans cet endroit de Paris qu'il va travailler pendant un certain nombre d'années.
Qu'est-ce qu'il fait chez le duc d'Orléans ?
Alors, chez le duc d'Orléans, ce sont des petits travaux, c'est-à-dire un travail de secrétariat. Donc, il monte légèrement. Et à la fin, il va même obtenir, quand son œuvre Henri III et sa cour va triompher, il va là devenir bibliothécaire adjoint du duc. Donc, c'est un endroit, c'est une excellente planque. Et par ailleurs, le charme de cette pièce, c'est que, étant près du duc près de la Comédie française, les employés du duc ont de temps en temps droit à des places gratuites pour aller voir les pièces de la Comédie française. Et là, il va se nourrir de théâtre, et lui, qui est un autodidacte, voilà, va tout apprendre à ce moment-là.
Et c'est par le théâtre qu'il rentre dans l'écriture, vraiment.
C'est dans c'est par le théâtre qu'il va exister. Parce que si on réfléchit un peu au contexte, on sait qu'au XIXe siècle, l'art noble en littérature, c'est la poésie. Ensuite, vient le théâtre en vers, à la Comédie française. Et enfin, le roman. C'est-à-dire, le roman, c'est rien. Ouais. Hein, à ce moment-là...
Des bêtises.
Voilà, il y a quelques petits romans, mais qui sont des délicatesses, je dirais, très féminines, puisque c'est comme... 24 heures ou la vie d'une femme sensible ou des choses que j'ai publiées à un moment, ce sont des petites choses. Et les grandes choses, c'est la comédie qui le donne, enfin la Comédie française qui le donne.
Et comment ça démarre pour lui alors, cette carrière de dramaturge ?
Ça va commencer justement par la poésie. Il va, avec son camarade de Leuven, qui est lui aussi à Paris, ils vont créer une revue poétique. Et là, dans la revue poétique, ils vont faire appel à des gens célèbres, Victor Hugo, etc., pour monter, pour publier des textes. Et donc, ils vont acquérir petit à petit des connaissances, ils vont approcher des gens célèbres,
ils intriguent
des noms. Et puis, il va y avoir aussi, et Dumas, c'est très dumasien, il va y avoir aussi une femme, Mélanie Valdor, qui a un salon, qui va devenir sa maîtresse, et il va, grâce à Mélanie Valdor, là encore une fois, faire des connaissances utiles. Il y a tout un système de connaissances utiles. Vous savez ce que Balzac disait, que les femmes étaient de chevaux de poste vers la réussite. C'est-à-dire que, bon, il va se servir, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas Mélanie Valdor, mais il y a ce système qui va fonctionner.
Mais comment le succès commence au théâtre, alors ?
Le succès...
Avec quelle pièce ?
Une pièce qui va s'appeler Henri III et sa cour, qu'il va présenter à la Comédie française et qui va avoir un succès extraordinaire car elle va être la première représentante du nouveau théâtre, c'est-à-dire du théâtre romantique. Dumas va inaugurer le théâtre romantique, qui va durer peu longtemps mais qui va être essentiel. C'est-à-dire, Henri III et sa cour vient une année avant Hernani. Et on sait comment la bataille d'Hernani va transformer le théâtre et va être, dans un sens, une réussite extraordinaire, mais aussi va être très discutée par les anciens.
Les gardiens du temple.
Les gardiens du temple de la Comédie française. Et
c'est bon signe en général, ça.
C'est plutôt bon signe, c'est signe que ça va réussir. Et puis, ça montre quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que la plupart... des pères de ces gens-là sont morts sur le champ de bataille. Et là, en fait, ils vont lutter non pas contre leurs pères, il y a un saut générationnel, ils vont lutter contre les grands-pères, les classiques, ce qu'on appelait les classiques, ce qu'on appelle aussi les genoux. Pourquoi les genoux ? Vous le voyez bien, parce que leur tête donnait l'impression d'être un genou sans cheveux. Donc, il y a ce moment assez exaltant où Dumas, Vigny, Hugo vont former une sorte d'équipe contre les grands-pères, ceux qui veulent leur imposer. Donc voilà. Et on peut comparer ce moment au moment des mousquetaires, c'est-à-dire le moment où tous pour un pour tous, on va se regrouper pour lutter contre les autres.
Qui inspirera éventuellement cette histoire d'amitié.
Je pense qu'il y a quelque chose comme ça.
Il faut dire un mot sur la personnalité de Dumas à l'époque quand même. C'est un bon vivant, c'est le moins qu'on puisse dire.
Est-ce que c'est un bon vivant? Si vous l'entendez, je vais une fois encore parler d'une légende qui court, c'est que c'était un grand buveur. Or, Dumas n'aimait que l'eau.
Il
détestait le vin. Alors, manger, il aimait faire la cuisine. Mais je pense que quand il faisait la cuisine, ce n'est pas pour lui, c'était pour les autres.
Oui, il aime les amis, il aime être entouré.
Moi, je ne le vois pas. Il y a des tas, pas des tas, mais un certain nombre de témoignages qui le montrent se contentant d'un peu de ce qu'on appelait du bouilli, c'est-à-dire un morceau de viande que l'on faisait cuire dans l'eau quasi et qu'il faisait un bouillon. Non, je ne crois pas que ce soit... Ce
n'est pas l'ogre qu'on décrit.
Non, la seule légende réelle, c'est son aspect dévoreur de femmes. Ça, c'est vrai que je l'accuse quelquefois d'un érotisme forcené, voire de priapisme à longue échéance.
Alors, les Trois Mousquetaires, ça arrive comment, cette histoire?
Mais ça arrive tard, relativement. La gloire de Dumas est déjà faite quand les Mousquetaires vont arriver. Mais cette gloire est faite au théâtre, et non dans le roman du tout. Et on a parlé d'Henri Troisacourt, il faut parler, bien sûr, aussi d'Antony, qui est un des premiers, même le premier... drame en habit noir, c'est-à-dire on ne donne pas des vêtements du 16e, 17e, 18e, comme chez Hugo par exemple. Là, c'est un garçon d'aujourd'hui, et c'est intéressant, c'est un bâtard. Or, Dumas, dans un certain sens, est aussi un bâtard. Son père aussi était un bâtard. On peut considérer les Dumas comme une sorte de série de bâtards qui vont donner cet aspect extraordinaire.
On a fait le tour du théâtre, on va rentrer dans le roman, et bientôt, Monte Cristo. Dans un instant, on vous raconte l'histoire de l'histoire. À tout de suite.
La Voix est libre.
Nicolas Caro.
Edmond Dantès s'était promis un bel avenir. Hey, et à l'amour d'une femme.
Tu m'as tellement manqué.
Que tous les hommes lui enviaient.
Je vous arrête sur ordre du procureur de Marseille. Vous me devez une explication.
Je suis innocent.
Vous parliez d'évasion, l'abbé.
En échange de ton aide, je te ferai un présent inestimable. Le trésor de Monte Cristo.
Il est devenu l'homme le plus riche que j'ai jamais connu. Que vas-tu t'offrir maintenant?
La vengeance.
Retour dans La Voix est libre, consacré à Dumas cette semaine, Alexandre Dumas, et donc au Comte de Monte Cristo, l'un de ses chefs-d'œuvre. Vous savez, Claude Chop, que chaque semaine, je visite les bibliothèques de personnalités pour l'émission. Et dans 95% des cas, je tombe sur un exemplaire du Comte de Monte Cristo. Comment on explique ça, Claude Chop?
Mais c'est justice, je crois que c'est un des grands romans du 19e. Et en fait, c'est un roman qui présente des aspects... divers, et par là même, ça peut être lu comme un roman politique, ça peut être lu comme un...
Il y a plusieurs niveaux de lecture, quoi.
Énormément de niveaux de lecture, et c'est d'une richesse incroyable.
À 12 ans, on ne le lit pas de la même façon qu'à 45.
Non, on le lit aussi parce qu'on reste un enfant, à certains côtés. Je veux dire que le problème de Monte Cristo, c'est le roman, c'est plus qu'un roman, c'est un mythe. C'est-à-dire que c'est le mythe du rapport de l'homme à Dieu, en définitive, et de la vengeance. Le mythe du vengeur, c'est un des grands romans qui s'interroge sur « A-t-on le droit de faire justice soi-même ? »
Je rappelle l'histoire quand même. C'est un jeune marin, Edmond Dantès, promis un grand avenir. On est à Marseille. Il va se marier avec Mercedes, très belle, aux cheveux noirs de jais. Et cette bonne fortune rend ses amis jaloux. Ils écrivent une lettre anonyme dénonçant Edmond comme un agent à la solde de Napoléon, l'empereur déchu, qui est à l'île d'Elbe à ce moment-là. Résultat, Edmond est arrêté, enfermé, mis au secret dans le château d'If, en face de Marseille. Et là, on l'oublie pendant une quinzaine d'années, 14 ans, je crois.
14 ans.
Il y rencontre l'abbé Faria, son voisin de cellule, qui lui enseigne la philosophie, les mathématiques, les mondanités, c'est important aussi, et puis qui lui révèle la cachette d'un immense trésor. Edmond réussit à s'échapper, je ne vous dis pas comment si vous ne l'avez pas lu, ce serait dommage. Il découvre le trésor et il devient le comte de Monte Cristo pour assouvir sa vengeance qui va être évidemment terrible. Où Dumas, Claude Chope, où Dumas est-il allé chercher cette histoire ?
Alors, l'histoire elle-même, c'est l'histoire d'un homme qui est écrite par un nommé Peuchet, qui travaillait à la préfecture de police. Ce serait la vengeance de François Picot. Sans la grandeur de Monte Cristo, disons qu'il y a un trait alors, qui, peu à peu, va éliminer ceux qui...
Qui est un jeune garçon à Paris qui va se marier aussi avec une très belle femme dont les amis sont jaloux, qu'il dénonce de la même façon et qui est envoyé dans une forteresse, c'est Fenestrel, je crois.
Oui, Fenestrel, oui.
Et ensuite, il sort et il se venge aussi. Mais alors là, il se venge moins subtilement, quand même.
Ah oui, non, c'est pas...
Il les tue, simplement.
C'est une vraie vengeance, mais alors ce que Dumas a repris, c'est que sur chaque cadavre, il y a numéro 1, oui. numéro 2, numéro 3. Et donc, voilà. C'est-à-dire que, partant de l'histoire de Peuchet, ça devient tout à fait autre chose très rapidement. Et au départ, il y avait d'ailleurs une vision assez différente dans la structure du récit. Au départ, on commençait à Paris et tout devait être rapporté en flashback. Et donc, c'est Maquet qui lui dit...
Auguste Maquet, qui était son collaborateur.
Son collaborateur, lui dit, peut-être on pourrait... Et je crois qu'effectivement, le côté linéaire est beaucoup bien meilleur que...
Ben justement, tiens, évacuons ce sujet-là tout de suite. Moi, je suis fou de Dumas, j'en parle souvent, et parfois, on me rétorque, Dumas, il n'écrivait pas ses textes. Effectivement, il avait des collaborateurs, dont Auguste Maquet, qui s'occupait de la structure, mais c'est Dumas, et Dumas piochait aussi dans des histoires qu'il trouvait à droite à gauche, oui. Mais c'est Dumas qui leur donnait leur grandeur.
Oui, non, bien sûr. En définitive, l'affaire Maquet est une fausse affaire, en vérité. C'est-à-dire Maquet était un jeune garçon qui est devenu demander aide et assistance à Dumas. Dumas a petit à petit fini par accepter le Comte de Monte Cristo, ça doit être le quatrième ou le cinquième livre qu'ils écrivent ensemble. Et donc, il va y avoir ce moment où Maquet va entrer véritablement. Il va être adoubé par Dumas. Et à partir de ce moment-là, réfléchissons, comment va-t-il écrire ? Il va écrire comme Dumas, puisque Dumas a déjà un style. Dumas a déjà 15 ou 20 ans d'écriture derrière lui. Et donc, c'est un faux procès. C'est-à-dire qu'au fond... Maquet, c'est du Dumas.
Puis il n'y avait pas de mystère. De toute façon, ce n'était pas secret.
C'est arrivé quand même un peu plus tard. C'est arrivé par le théâtre, justement.
Pourquoi ce titre de Monte Cristo ?
Alors, Monte Cristo, c'est une... Bon, alors certains ont cru voir une montagne, là, du côté d'Haïti. Bon, mais il est bien évident que les Monte Cristo, il y en a un peu partout, je veux dire. Et à vrai dire, la vérité, c'est que rencontrant le jeune prince Napoléon, qu'on a appelé Plomplom, il part avec lui, avec ce jeune garçon qui devait avoir 19 ans, ils partent faire un tour pour aller à l'île d'Elbe, voir l'île où Napoléon était le roi provisoire, si j'ose dire. Et là, ils passent auprès d'une île déserte et Dumas va promettre à son jeune ami le prochain roman... Il le nommera d'après ce moment princier, si je veux dire.
Parce que ce rocher s'appelle l'île de Monte Cristo.
Oui, c'est ça.
Et il dit, le prochain roman, il y aura Monte Cristo quand il arrive dedans.
Dans le titre.
C'est magnifique. Et il accorde surtout une importance capitale à ses personnages, Dumas. Il en fait quasiment des êtres de chair et de sang. On s'y attache et il s'y attache aussi beaucoup. Vous m'avez raconté un jour, Claude Chope, une anecdote qui montre bien ça. C'est au moment de la mort de Porthos, à la fin du cycle des Mousquetaires, au bout de 2500 pages. Qu'est-ce qui se passe ? Racontez-nous ce moment.
C'est-à-dire, c'est son fils qui le raconte, son fils qui est devenu écrivain aussi, vous le savez. Et le fils entre dans... Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit son père pleurer. Or, Dumas était un grand sensible, il pleurait assez facilement. Mais quand même, là, il n'y avait pas de raison, il était devant son bureau, c'était un peu ridicule de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Je viens de tuer Porthos. Et donc, il a fallu tuer. Et le seul qui n'a pas réussi à tuer, c'est Aramis. Et c'est celui qui méritait davantage la mort, en définitive.
Il finira par mourir aussi.
Peut-être, mais on ne le sait pas.
C'est vrai que cette fin était terriblement émouvante. Je vous cite les derniers mots du roman à la toute fin des Mousquetaires. Athos, Porthos, au revoir. Aramis, à jamais, adieu. Des quatre vaillants hommes dont nous avons raconté l'histoire, il ne restait plus qu'un seul corps. Dieu avait repris les âmes. Et ces mots-là, quand on les lit, ça veut dire qu'on a fait tout le cycle des mousquetaires, donc les trois mousquetaires, 20 ans après, le vicomte de Bragelonne. C'est un marathon de lecture quand même. Est-ce que c'est ça ce qui explique qu'on est si attaché à ces personnages de Dumas? C'est pareil pour Monte Cristo. Ils deviennent tous des amis. C'est,
oui,
c'est que... sa manière de faire ou c'est le temps long comme ça qui nous attache?
Je crois que le temps long apporte quelque chose de différent, en définitive. C'est vraiment, Proust disait, j'écris mon vicomte de Bragelonne, dans le temps retrouvé, enfin. Et là, il y a aussi quelque chose d'un peu proustien, c'est ce temps qui passe, et on passe du temps avec, en fait. Il y a un jeu subtil, et il y a l'évolution des trois personnages, ou des différents personnages. Je crois que cela est assez admirable, en fait, ce jeu du temps.
Il a le génie des caractères aussi, Dumas. C'est-à-dire que dans chacun de ses personnages, il met chaque vertu et chaque vice. Ça devient pratiquement des symboles de ses vertus et de ses vices, ou un mélange des deux. Il a ce génie-là, quand même. Ça vient du théâtre, peut-être.
Oui, ça vient du théâtre. Et ce qui vient du théâtre, c'est aussi la facilité de lecture que l'on a, parce qu'il y a beaucoup, bien sûr, de dialogue. Et vous savez que le dialogue, c'est quelque chose, on ne va jamais jusqu'au bout de la ligne. Donc, on a l'impression d'avancer extrêmement vite. Alors, il y a une longueur extrême, c'est-à-dire, on se dit, mais j'ai eu quelquefois des élèves, au départ, il y avait l'effroi. On ne réussira pas à lire tout ça. C'est pas possible. Et une fois entré dans la carrière, on allait jusqu'au bout, bien entendu, au contraire, avec une espèce de bonheur extrême. Bonheur, dans Monte Cristo, de voir que la justice n'était pas régnante, mais que la justice, on pouvait... Alors évidemment, il fallait après poser la question de l'enfant qui meurt, alors qu'il était innocent ou pas. Enfin, ces moments qu'on retrouve dans Camus, quasiment.
Ce qui les rend tellement réels, ces personnages, c'est aussi peut-être parce qu'ils les piochent précisément dans la réalité. On en a parlé pour Monte Cristo tout à l'heure, c'était le fameux François Picot, le vrai Monte Cristo. Mais Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan ont eux aussi existé.
Oui, ils ont existé, enfin, ils ont existé certainement, mais on ne sait pas très bien comment ils ont existé, puisque ça reste un peu mystérieux, cette histoire que Dumas va chercher ailleurs.
Mais en tout cas, D'Artagnan, bon, pour les trois mousquetaires, on sait qu'il y a eu Henri d'Aramitz, Isaac de Porto et d'Hauteville, qui était le vrai Athos. On ne sait pas beaucoup de choses sur eux dans les archives. Mais en revanche, D'Artagnan, ça oui, on sait qu'il a été un grand mousquetaire de l'époque.
Oui, on sait ça, mais à vrai dire, curieusement, chez Dumas, il y a des choses qu'on ne... Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais seuls deux mousquetaires n'ont pas de prénom. Or, ce n'est pas normal qu'ils sont appelés à avoir des aventures amoureuses. Mmh. Et justement, ce sont ceux qui ont des aventures amoureuses, c'est-à-dire D'Artagnan, il n'y a pas de prénom, on cherche. Et Porthos non plus. Bon, Aramis, une fois, on trouve un prénom. Ce sont des gens sans prénom, curieusement.
Oui, c'est vrai.
Donc, voilà. Non, je pense que ces mousquetaires sont là. C'est encore le problème de la mythologie. Qu'est-ce qu'ils représentent? Ce sont des mythes. Hein. Vous allez au fin fond de la Chine, ça m'est arrivé.
Oui, on les retrouve.
On va vous dire qui j'ai été dans mon enfance. Je jouais, j'étais.
Mais c'est ça la force de ce roman-là aussi.
C'est
comme
la force.
Beaucoup de grands romans, c'est comme Les Quatre Filles du Docteur March ou. Une telle se prend plutôt pour Joe, etc.
Oui.
Là, on se prend soit pour D'Artagnan, soit pour Athos si on est un peu plus ombrageux, soit pour Porthos si on est un peu plus exalté, soit pour Aramis si on aime bien le sens de l'intrigue. En fait, ma question, c'est est-ce que c'était très réfléchi de la part de Dumas, ou alors est-ce que ces personnages prenaient vie et l'emmenaient malgré lui dans ces directions-là?
Oh, je crois que comme dans tous les grands romanciers, il est entraîné. Il est entraîné vers ailleurs.
Allez, on se remet de la mort des mousquetaires. Dans un instant, Pierre Lemaître nous rejoint. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
De retour dans La Voix est libre, spécial Dumas aujourd'hui. Il est l'heure de passer un coup de fil à une personnalité qui aime et admire l'écrivain du jour. Nous ferons ça chaque semaine. Pour Dumas, je me suis dit, tiens, Pierre Lemaître, pourquoi pas, l'auteur d'Au revoir là-haut et Des couleurs de l'incendie et Le dernier miroir de nos peines chez Albin Michel. On y trouve des références à Dumas, à Monte Cristo en particulier. Alors je l'ai appelé et c'est bien ce que je pensais. Bonjour Pierre Lemaître.
Bonjour.
Je me précise que vous êtes en plein travail à la bibliothèque, que vous vous êtes mis dans un coin sur le côté pour nous parler, merci beaucoup, et parler à Claude Schoop surtout. Je sais que vous avez beaucoup d'admiration pour lui.
Énormément, oui, parce que c'est un spécialiste non seulement encyclopédique, mais un spécialiste passionnant, et les deux ne vont pas toujours de pair.
On ne citera pas de nom. Et Dumas, alors, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Quand est-ce que vous l'avez rencontré, d'une certaine manière?
Alors, écoutez, moi, je l'ai rencontré tout jeune, c'est-à-dire, au fond, à l'âge où on aurait dû peut-être m'enseigner un petit peu de philosophie, ben, j'étais la puisée dans Dumas. Vous savez, vous pouvez très bien faire un cours sur l'idéalisme, sur le devoir, sur l'amitié, et puis vous pouvez aussi donner les trois mousquetaires. Hein, vous, voyez, vous obtiendrez le même objectif. Et moi, en fait, je l'ai lu et j'ai été absolument emporté par Dumas. Et ce qui a été, je crois, un peu particulier, c'est de me rendre compte que aussi bien la trilogie des Trois Mousquetaires jusqu'à Bragelonne, aussi bien que Monte Cristo, c'est que ce sont des livres qui commencent comme des aventures, avant tout comme des aventures, donc qui étaient tout à fait propres à emballer un jeune lecteur tel que je l'étais. Et puis ce sont des romans qui virent progressivement à quelque chose de plus métaphysique, de plus philosophique. Le 20 ans après est une grande tragédie, et le Vicomte de Bragelonne est un livre presque métaphysique, et au fond, on peut grandir avec Dumas, parce que on le commence jeune avec l'aventure, on le poursuit avec la grande tragédie de la vie, et en vieillissant, on le redécouvre en quelque sorte métaphysicien.
C'est vrai, Claude Schoop, c'est divertissant de lire Dumas, ça, sans aucun doute, mais il y a une profondeur immédiate, en fait, chez Dumas.
Oui, la recherche d'une émotion qui est... Et aussi, moi, enfin... Véritablement, je suis très sensible, en vieillissant, à la distance qu'il met par rapport à ses personnages, la distance que je appellerais d'humour. Il y a un humour Dumas qui est absolument formidable.
Pierre Lemaitre, est-ce que dans l'écriture, vous êtes inspiré aussi d'une certaine manière de Dumas, et de quelle façon ?
Oui, alors, je dirais, les deux premières influences les plus visibles, c'est d'une part ce que j'essaye de faire dans mes romans, c'est-à-dire de feuilletonner, c'est-à-dire d'arrêter les scènes sur des moments de suspension, hein, où le lecteur, je l'espère en tout cas, a envie de poursuivre. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai été, bien sûr, prendre chez Dumas. Et puis, il y a aussi autre chose un peu plus secret, et que j'ose pas trop faire parce que les éditeurs aiment pas trop, alors ils n'hésitent pas trop à me dire, attends, quand même, c'est l'appel au lecteur, l'adresse au lecteur.
Ah oui,
c'est
quelque
chose. Ah oui, ça c'est quelque chose que j'adorais quand j'étais membre, quand Dumas disait, le lecteur se souvient certainement que nos héros, pour ça moi j'étais emballé parce que j'avais l'impression que Dumas me parlait à moi, alors j'adorais ça. Alors je le fais dans mes livres, mais les éditeurs n'aiment pas trop, ils me disent, oh, quand même c'est plus très moderne, alors bon, j'essaye de faire entre la modernité et la tradition.
C'est vrai, Pierre Lemaitre a raison, ça vient de me sauter aux yeux, là. Dumas s'adresse sans arrêt au lecteur, ça crée un lien incroyable avec son lecteur.
Je crois que ça vient de l'homme de théâtre qu'il était.
Eh oui.
Le théâtre, c'est qu'on s'adresse à... Il y a du théâtre, et donc il y a le spectateur qui arrive parfois sur la scène, au fond.
Pierre Lemaitre, vous faites partie des fous...
Vous avez tout à fait raison. Certainement que ça vient du théâtre, mais c'est aussi une tradition qu'on trouvait dès le XVIIIe siècle. Par exemple, l'adresse au lecteur, on la trouve chez Diderot dans Jacques le Fataliste, dès le début. Alors c'est vrai que c'est une espèce de proximité que le romancier entretient avec son lecteur, et ça c'est une tradition qu'on avait un petit peu perdue dans la littérature française à partir de la fin du XIXe, et voilà, dans lequel j'essaie de me couler très modestement.
On a un peu perdu aussi d'ailleurs ce côté hyper romanesque, quoi. En France, on a eu toute une période un peu cérébrale qui était intéressante, hein, et puis de laboratoire de style et tout ça, mais on a peut-être un peu perdu cette tradition très dumasienne, justement, de la grande fresque romanesque avec beaucoup d'action, beaucoup de choses qui se passent comme ça. Et vous faites partie de ceux qui font revivre un peu ça, Pierre Lemaitre.
Bah oui, disons que voilà, j'essaye d'être le romancier qui est le résultat du lecteur que j'ai été. Bah, c'est vrai que ces grands romans, les grands romans simplificateurs, vous voyez, de Hugo, de Dumas, qui étaient grands amis, hein, il faut lire la merveilleuse correspondance entre les deux. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup bouleversé. Donc voilà, j'essaye de renouer en quelque sorte avec un plaisir de lecture en faisant l'hypothèse que aujourd'hui il y a encore de la place pour un roman romanesque, vous voyez, un roman à aventure, et malgré tout un roman qui dise quelque chose sur son époque, tout à fait comme le faisait Dumas, ou bien sûr comme le faisait Hugo.
C'est un ami pour vous, Pierre Lemaître, Dumas, ou un copain, ou est-ce que c'est un maître?
Comment vous dire? C'est un grand-père. Un grand-père bienveillant, un grand-père qui m'a appris des choses, exactement comme le rôle que doit jouer un grand-père. Donc voilà, j'ai la tendresse qu'on peut avoir pour un grand-père, l'admiration qu'on peut avoir pour un aîné, pour un aïeul. Voilà, je dirais que c'est plutôt ça, il y a une espèce d'affection filiale. Alors évidemment, moi je revendique qu'il soit grand-père, mais je suppose bien que Dumas n'en a rien à faire que je sois son petit-fils, évidemment.
C'est pas sûr, ça. Il le renierait pas, non, Claude Chep?
Ah non, il a le goût du paternel, en fait.
Ouais. Pierre Lemaître. Bon, en tout cas, je vais m'en réclamer. Je vous écoute.
Vous faites partie des fous de Dumas qui ont entrepris de tout lire, y compris les œuvres mineures, ce qui représente au bas mot une centaine de livres au bas mot, où vous relisez constamment ses chefs-d'œuvre.
Je vous cache pas quand même qu'il y a des livres de Dumas qui me sont tombés des mains.
À juste titre.
Oui, non, mais bon, c'est vrai que dans une production comme celle-là, il y a forcément, vous voyez, le bon grain et l'ivraie, c'est inévitable. C'est vrai que les grands chefs-d'œuvre, j'ai tendance à y retourner. J'ai relu, par exemple, 20 ans après, il y a un an ou deux, je suis retombé dans ce livre qui est un livre magnifique sur l'amitié, sur la grande tragédie de l'âge et de l'amitié. Je relis beaucoup Dumas, je relis beaucoup.
D'ailleurs, on n'en a pas encore parlé, mais dans « Couleur de l'incendie », notamment, il y a une référence très claire à Monte-Cristo.
Ah ben oui, c'est-à-dire que voilà, dans les remerciements, je cite tout de suite mon maître Dumas, très, très modestement. Je me suis contenté de lui prendre, hormis ce qu'on disait tout à l'heure, l'adresse au lecteur, le jeu avec le lecteur en feuilletonnant l'histoire, eh bien de lui emprunter la structure de Monte-Cristo, puisque dans Couleur de l'incendie, je fais deux parties, la partie de la chute et la partie de la vengeance. Alors évidemment, tout a changé, on est dans les années 30, ça n'est plus un homme, c'est une femme. Enfin, j'essaye de jouer Dumas et de, à travers ça, non pas de l'imiter, mais de lui rendre hommage.
Merci beaucoup, Pierre Lemaître.
Moi qui vous remercie, j'ai eu plaisir d'écouter Claude Chop, c'était très agréable. Merci à vous.
Et je rappelle le titre de votre dernier roman, Miroir de nos peines, chez Albin Michel. Bon travail à vous, merci beaucoup, Pierre Lemaître.
Merci, à bientôt.
J'aimerais demander en grâce à Pierre Lemaître une page ou deux sur Dumas que je publierai dans les cahiers Dumas.
Là, je fais le piège.
Voilà, c'est bien volontiers, bien volontiers.
Bon, alors j'attends.
Magnifique.
Absolument.
Formidable.
À bientôt.
Merci Pierre Lemaître, au revoir. Claude Chop, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est livre.
De retour dans La Voix est livre, consacrée à Dumas aujourd'hui. On l'a constaté avec Pierre Lemaître tout à l'heure. Dumas continue d'inspirer les auteurs modernes, mais surtout, son héritage aujourd'hui se retrouve, notamment dans les séries. Ce sont les feuilletons du 19e siècle, bien sûr. C'est Dumas qui invente le cliffhanger, c'est-à-dire ces fins de chapitre en suspens qui donnent envie de découvrir la suite. On l'a évoqué avec Pierre Lemaître tout à l'heure, mais c'est vrai quand même, il y a de ça. Quand on voit les séries d'aujourd'hui, on se dit, c'est un Dumas, c'est pas possible.
Oui, ça s'affine. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on va retourner à Monte-Cristo, encore une fois, là, d'ici quelques mois. Hein, et on va avoir, l'année prochaine, un nouveau Trois Mousquetaires.
Oui, il y a sans arrêt des adaptations au cinéma.
Des adaptations au cinéma, en série, c'est vraiment étonnant.
Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui, Dumas, dans le monde de l'édition? Est-ce que c'est encore beaucoup vendu
Ah oui, il était rien. Hein. Il y a 30 ans, il n'était plus rien.
Ah bon?
Ah oui.
Ah, il avait disparu?
Oh, pas vraiment disparu, mais je situe sa renaissance vers les années 90. Uh-huh. Avant, il restait quelques...
Ah, il y a une période très creuse comme
Il y a une grande période creuse. Et en fait, Dumas a survécu grâce au cinéma. Justement, grâce à l'action. On connaissait, je ne sais pas, Bourville dans Planchet. Il y a eu la période d'après-guerre.
Planchet qui est le valet de D'Artagnan.
Voilà, il y a de mauvais films. Mais bon... Ça, on connaissait Dumas à cause de ça. On ne lisait plus Dumas.
Mais d'ailleurs, il a été admis sur le tard au Panthéon en 2002, je crois. Pourquoi si tard?
C'était même presque plus tôt. Je n'allais pas dire trop tôt, mais parce que...
C'était pour les gamins, Dumas? C'était pas assez sérieux? C'était quoi l'histoire?
C'était pas sérieux et en fait, je crois que c'était populaire. Et en fait, il y a le problème. Le rapport de Dumas et de l'université était un rapport assez difficile. C'est-à-dire que entre ma thèse et la première thèse, il s'est passé 80 ans. C'est-à-dire que, bon, personne n'étudiait plus Dumas. Et il y a eu un moment de renaissance dans les années 90. Et là, ça s'est accentué. Il y a un nombre de thèses qui sont publiées sur Dumas, entre autres tous les problèmes de narratologie qui arrivent et qui sont... C'est devenu un auteur ordinaire, si j'ose dire. Un grand ordinaire.
Mais c'est, il est moderne, Dumas ou,
il est totalement moderne.
On extrapole un peu.
Non, je crois qu'il est totalement dans la modernité, dans la mesure où il est hors rhétorique. Je veux dire, ce qui a fait le malheur de Dumas, si j'ose dire, un temps, c'est-à-dire, on disait qu'il écrivait mal parce qu'il écrivait simple. Et maintenant, le contraire, c'est écrire simple est devenu une qualité majeure.
De temps en temps, on voit surgir un Dumas inédit ou qu'on avait complètement oublié. Et souvent, ça vient de vous. Où est-ce que vous trouvez tout ça? Vous avez une malle secrète, quelque chose avec des manuscrits?
Non, pas du tout. C'est qui cherche, trouve. Je veux dire qu'il y a véritablement chez Dumas une production intense. Alors, le gros problème qui se pose, c'est est-ce que le Dumas que j'ai en main, c'est du Dumas ou du Dumas... venu d'ailleurs,
retravaillé.
Non, il ne reste pas de très grands Dumas. Mais il y a des Dumas très intéressants qui sont réapparus, et des petits contes, des nouvelles, par exemple. Le roman a un peu mangé le reste. Or, il y a quand même toute une variété chez Dumas qui est intense.
Un jour, vous avez écrit un roman en société avec Alexandre Dumas. C'est-à-dire que vous aviez un canevas, un début, et vous avez écrit une partie à la place de... Vous avez eu le trac à ce moment-là, vous avez hésité, c'est quand même pas rien.
C'est-à-dire, ça faisait très longtemps que j'avais...
C'est marqué en gros sur la couverture, attention. Oui, hein, oui, en société avec l'autre.
Oui, non, le mot en société faisait penser aux travaux avec Maquet. Hein. Donc c'était un travail comme ça. Bon, il y avait effectivement la légitimité, c'était que j'avais trouvé le plan. Et donc avec le plan et quelques chapitres, qui n'avait pas été publié jusqu'ici, puisque, en fait, c'était une suite. Hein. Je ne faisais que la suite du conte Hector de Saint-Hermine. Bon, c'était une suite, donc il y avait quand même un début, donc je savais comment il procédait. Donc j'ai essayé de faire, de copier, en quelque sorte, de copier, mais d'inventer un peu par rapport à cette copie.
Mais c'était intéressant à faire,
c'était passionnant.
Ça faisait peur. Quel était votre état d'esprit à ce moment-là?
Oh, je crois que j'ai fait ça dans une espèce de joie amicale. Il n'y avait pas d'enjeu, en fait, en vérité. L'enjeu, c'est peut-être d'avoir un échec, mais le reste, ça ne faisait de mal à personne. Les choses étaient bien claires, voilà.
Un petit mode d'emploi, là, s'il y a un ado de 12-13 ans qui nous écoute ou si ses parents nous écoutent, qu'est-ce qu'on lui donne de Dumas en premier pour vraiment l'accrocher définitivement à l'aventure, à la littérature, pour de bon?
Je pense que le Comte de Monte-Cristo est peut-être un peu long, donc il a la peur dont je vous parlais. Je ne sais pas, moi j'ai beaucoup de goût, par exemple, pour La Dame de Montsoreau, qui est un roman assez court, relativement avec de beaux personnages, avec de grandes scènes amusantes, entre autres un personnage fascinant qui est celui de Chico, qui est admirable. Donc je pense que ça peut très bien fonctionner. En plus, il y a une histoire d'amour très belle. C'est la plus belle histoire d'amour que Dumas écrit sans doute dans La Dame de Montsoreau. Donc.
Vous avez commencé par lequel, vous d'ailleurs, Claude Chope, et à quel âge?
Ça, j'ai commencé très tard, en fait.
Ah oui?
Oui, oui. Bah, je ne suis pas d'une famille où il y avait des livres, donc j'ai commencé. J'ai dû commencer au lycée. En fait.
Ah, vous ne vous souvenez pas de ce moment où vous découvrez
Dumas?
Non,
il n'y a pas eu. Moi, je compare toujours mon rapport à Dumas comme des mariages de raison qui deviennent des mariages d'amour. J'ai commencé par la raison. J'avais besoin d'un thème universitaire qui ne soit pas trop galvaudé, voilà. Et à partir de ce moment-là, plus je lis Dumas, plus je l'aimais et plus j'avais des rapports de type intime avec lui.
Qu'est-ce que vous lui direz si vous le croisez un jour dans une autre vie?
Oh, je crois que je...
Il viendra vous voir, c'est
je
sûr.
Je lui taperai sur l'épaule, en fait, en lui disant bien joué. Il a bien joué sa vie.
Merci Claude Chop. Dans un instant, on retrouve un autre lecteur de Dumas, j'en suis sûr, ce grand enfant de Victor Dolande, pour sa chronique littérature jeunesse. À tout de suite.
Il était une fois.
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 Et on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Je suis content, vous avez joué le jeu et tout. Vous avez trouvé à chaque fois pour les auteurs, les monstres sacrés, un livre jeunesse qui va avec. Là, vous avez choisi Les Trois Mousquetaires, une adaptation pour les plus petits, c'est ça ?
Exactement. Alors, est-ce bien nécessaire de rappeler l'histoire ?
On en a déjà un peu parlé, mais allez-y, allez-y.
Oui, quand même. Pour ceux qui n'auraient pas lu le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, on est en 1625. Le jeune D'Artagnan, tout juste 18 ans, rejoint la capitale avec sa lettre de recommandation afin d'entrer au service des mousquetaires du roi Louis XIII. Seulement voilà, lors de son voyage, tout ne se passe pas comme prévu. Après avoir provoqué involontairement en duel les trois mousquetaires, il se retrouve à faire équipe contre des envoyés du cardinal de Richelieu et de cette altercation va naître une amitié indéfectible entre Athos, Porthos, Aramis et donc D'Artagnan. Et les mousquetaires vont tout faire pour sauver l'honneur de la reine de France face au complot du cardinal de Richelieu.
Ça, c'est l'histoire, ok. Mais vous avez choisi une adaptation à lire à partir de 6 ans, je suis curieux.
Oui, c'est une très belle version, très intelligente, imaginée par Bénédicte Rivière et illustrée par Camille André. Alors, il faut dire qu'il existe énormément d'adaptations des Trois Mousquetaires. Et celle-ci est de loin la plus réussie pour les plus jeunes. L'histoire originale est parfaitement respectée. Il n'est pas question pour l'auteur de faire des raccourcis. La mort des personnages, elle n'est pas édulcorée, elle est violente. Là aussi, ça respecte parfaitement l'essence du texte de Dumas.
Et ça plaît aux enfants à partir de 6 ans ?
Oui, forcément. Enfin, c'est quand on leur parle de mousquetaires, on parle de combat à l'épée, les enfants adorent ça. Bon, y a quand même un petit inconvénient, Nicolas, avec cette adaptation des Trois Mousquetaires qui est vraiment très réussie, c'est que vos enfants vont vouloir transformer votre salon en salle de duel. Ne me remerciez pas, c'est mon petit cadeau du jour pour cet été.
Vous ne croyez pas si bien dire, ma fille est très douée en escrime.
Eh ben exactement.
4 ans déjà.
Ouais, voilà.
On rappelle le titre de cet immense classique, est-ce besoin de le rappeler ? Les Trois Mousquetaires de Bénédicte Rivière et illustré par Camille André, d'après le roman d'Alexandre Dumas. Et c'est aux éditions Ozou. Merci Victor.
Merci à vous Nicolas.
Et merci beaucoup à vous Claude Chop d'avoir passé cette heure avec nous. Je signale au passage la parution, supervisée par vous bien sûr, de la correspondance entre Georges Sand et Dumas père et fils, c'est chez Phébus. Et puis je conseille évidemment tous les livres signés Dumas. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer un autre monstre sacré de la littérature, Stephen King. À la semaine prochaine.
À dimanche prochain, Nicolas Caro. Dans un instant, Isabelle Morizet retrace le parcours de son invité. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, de 15h à 16h, donc sur Europe 1, avec aujourd'hui un créateur-designer français, Philippe Starck.